Invité des matins du samedi, la sociologue Dominique Méda, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine. Vous dirigez l'IRISO, l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Vous êtes spécialiste des politiques sociales, des questions d'emploi, de temps et de conditions de travail. Voilà autant de choses réunies qui nous ont donné envie de vous inviter aujourd'hui, puisque c'est toutes ces questions que nous avons retrouvées dans la rue, en tous les cas ce jeudi. Et c'est pour cette raison-là que je voudrais vous demander, pour la première question, qu'est-ce que vous avez pensé de ce qui s'est passé jeudi? Comment l'interprétez-vous? Est-ce que c'était des manifestations contre la réforme des retraites ou plus largement contre les politiques du gouvernement ou encore plus largement contre le monde qui va avec?
J'ai l'impression que vous me suggérez la réponse. Bon, c'était évidemment un peu les trois. Il y avait la remise en cause de la réforme des retraites, mais comme vous le dites parfaitement, il y avait une remise en cause de toutes les fins, hein. C'est-à-dire on dit aux gens que ça sera la fin de l'emploi, mais c'est aussi la fin du monde. Le monde va s'écrouler avec le changement climatique. Les gens ont des difficultés en fin de mois. Donc c'est toutes les fins qui tombent sur la figure des personnes et qui n'en peuvent mais. Et surtout, alors c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Cette réforme des retraites, elle s'inscrit maintenant dans une série qui a commencé. Alors pas nécessairement avec l'élection d'Emmanuel Macron, mais tout de même, dans une longue série, je veux dire, il y a eu les ordonnances travail, où quand même, en gros, on essaye de licencier plus facilement les personnes et de rendre plus délicate leur indemnisation. La réforme de l'assurance chômage, extraordinairement punitive, qui repose sur l'idée que les gens feraient des arbitrages entre le loisir et le travail, et finalement, s'ils ne retournent pas au travail, c'est parce qu'ils sont bien au chaud chez eux et bien tranquilles. La crise de l'hôpital, où on n'arrive pas à apporter une réponse sérieuse aux maux de l'hôpital. Et puis cette réforme des retraites. Donc on a l'impression là d'une série qui remet profondément en cause l'état social tel que nous l'imaginons. Et finalement, quand on prend un peu de distance, quand on regarde sur une trentaine ou une quarantaine d'années ce qui est en train de se passer, moi l'impression que j'ai, c'est qu'on a, alors on a eu une diffusion du néolibéralisme dans le monde, qui est parti des États-Unis et puis qui est passé par le Royaume-Uni, qui a eu un petit peu plus de mal à s'installer en France.
Qu'est-ce que vous appelez le néolibéralisme ?
Un mélange, c'est Michel Foucault qui explique ça le mieux, hein, dans Naissance de la biopolitique, laisser toute sa place et de plus en plus de place au marché, mais avec un rôle actif de l'État pour faire cela, hein, à la différence du libéralisme où l'État s'était retiré. Là, vraiment, il y a une action permanente de l'État pour faire de la place au marché, à la financiarisation et à toutes ces choses-là. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que dans le néolibéralisme, il y a l'idée qu'il faut que l'État social soit résiduel, hein, c'est-à-dire, il y a un filet de sécurité pour les plus pauvres, et au-dessus, c'est l'idée de Milton Friedman, si vous voulez. Et au-dessus, on fait ce qu'on veut. Au-dessus, il n'y a plus de protection sociale, chacun s'assure comme il veut. Et donc, la protection sociale est indexée sur les revenus ou les capacités, la position sociale. Vous êtes aisé, vous vous payez une bonne retraite, une bonne couverture maladie. Vous êtes modeste, non. Donc voilà, il y a ça comme horizon. Et je pense que les personnes, de même qu'au moment de, je ne sais pas si vous vous souvenez, la remise en cause de la baleine, la sécurité sociale, la grosse baleine. Aujourd'hui, les gens manifestent leur attachement à un état social fort, à des services public fort, et ils ne veulent pas les voir remis en cause.
Mais alors comment expliquez-vous, Dominique Méda, que ce soit sur ce thème des retraites et pas sur les conditions de travail ou l'état social que les colères se rassemblent?
Mais parce que là, il y a une attaque frontale contre les retraites, alors que sur le travail, qu'est-ce qu'on constate sur le travail? Là encore, j'essaye de prendre un peu une perspective longue. Il y a une dégradation très forte des conditions de travail en France, que nous montrent très bien les enquêtes, hein. Très très forte dégradation des conditions de travail. Alors, avec certes, peut-être une amélioration des conditions de travail physiques, hein, des conditions d'exercice physique du travail, quoique. Et une aggravation des risques psychosociaux. Donc quand on regarde bien les enquêtes, on voit que les gens sont soumis à des cadences extraordinairement fortes. Et je disais physique, ça va mieux, mais non, il y a les troubles musculo-squelettiques, les gens sont soumis à des pressions de plus en plus fortes, qui viennent aussi de ce qui se passe plus haut, hein, c'est-à-dire des multinationales et des circulations de capitaux qui pèse, qui oblige les travailleurs à travailler de plus en plus vite et de plus en plus mal. Donc, il y a eu des changements extraordinaires dans le travail, avec beaucoup de dégradation des conditions de travail. Mais les syndicats sont un petit peu battus contre ça, mais c'est pas très facile parce que ça se passe dans des entreprises. On a des travailleurs de plus en plus atomisés, précarisés. Des syndicats, on est obligé de le dire, hein, qui sont de moins en moins crus, de moins en moins forts.
Pourtant, on signale le retour des syndicats.
Bien sûr,
avec ce mouvement.
En effet, retour des syndicats. Mais vous voyez, trop souvent, les syndicats qui défendent les règles, le droit du travail, se sont fait mettre de côté. Là encore, je reviens à ce que j'appelle trop grossièrement le néolibéralisme. En quoi ça a consisté ? Ça a consisté à dire toutes les règles, par exemple du droit du travail ou de la protection sociale, toutes ces règles sont des entraves dans la compétition mondiale. Les règles sont des entraves, nous devons les supprimer. C'était la position de l'OCDE dès les années 80-90. Et tous les pays ont tenté de faire une sorte de benchmark. Un benchmark, c'est quand on compare les bonnes pratiques les uns des autres. Et dire, ah mais regardez, chez eux, c'est plus facile de licencier. Donc essayons nous aussi de rendre le licenciement plus facile. Donc on est dans une espèce d'échelle de perroquet là, vers le bas, qui est absolument catastrophique pour les personnes.
Donc au final, c'est plus l'expression de la place du travail ou de la situation justement du travail dans notre société qui s'exprime que la question en elle-même des retraites.
Mais tout se tient. Parce que imaginons qu'on travaille tous 28 heures par semaine, bien payés, et que ça soit très, très sympathique, que le travail soit épanouissant, etc. Peut-être qu'on pourrait travailler plus longtemps. Mais là, on a tout en même temps, en quelque sorte, c'est-à-dire une précarisation du travail. Des jeunes qui rentrent, parce qu'on parle beaucoup des retraités, mais il faut aussi parler des jeunes. Il y a très peu de moyens qui sont donnés aux jeunes. Donc des jeunes qui rentrent de plus en plus tard sur le marché du travail, qui se disent qu'ils arriveront jamais à avoir leurs 42 ou 43 ans, et donc ils vont être soumis à la double peine. J'arrive pas à rentrer sur le marché du travail, et en plus j'aurai pas de retraite.
D'une certaine façon, c'est l'ultime manifestation d'un monde qui serait en train de disparaître. Presque on pourrait dire celui du salariat, tel qu'on l'entendait encore il y a quelques années, Méda.
Alors ça, je pense pas du tout. Oh, mais c'est en effet ce qu'on essaye de nous faire croire. Hein. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, on parlait des fins dans la manifestation. Il y a tellement d'angoisse qui se jette sur les gens, que l'on jette comme ça à la figure des gens. Hein. On leur dit en effet, ah bah tiens, il y a la moitié des emplois qui vont disparaître dans les 10 ans, hein, sous le coup de l'automatisation. Puis quand on regarde bien, ça c'était un article de Frey Osborne en 2013, quand on regarde bien, bah non, les emplois ils ont pas disparu. C'est-à-dire, on laisse croire aux gens que la technologie va tout détruire sur son passage et qu'on n'a rien à faire, juste à regarder les dégâts. Mais non. Et c'est une manière, si vous voulez, aussi de mettre à mal la résistance des personnes. On leur dit, c'est même pas la peine que vous vous battiez, l'emploi va disparaître. Donc le climat, c'est une horreur, il y aura plus de... Et c'est ça aussi que je reproche, si vous voulez, aux réformes d'aujourd'hui. C'est qu'on a l'impression qu'on est en silo, donc là, on nous fait une réforme des retraites, alors que l'urgence absolue aujourd'hui, c'est évidemment le changement climatique. Et que ce qu'on devrait faire là, c'est s'engager tous ensemble dans un projet absolument enthousiasmant qui serait de rebâtir entièrement nos économies pour répondre au changement climatique. J'ai même envie de dire, on devrait s'organiser comme si on était en guerre. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, Beveridge, il fait deux rapports, un réformateur anglais, deux rapports. Un rapport en 1942, où il dit, ben voilà, quand on sera sorti de la guerre, on va mettre en place un welfare state, un état tourné vers le bien-être. Et puis il fait un autre rapport en 44, qui est assez keynésien et qui s'appelle le plein emploi dans une société libre. Et il dit, pour qu'une société soit libre, il faut du plein emploi. Je vais vous expliquer comment on peut en permanence avoir du plein emploi. Deux rapports extraordinairement intéressants qui vont enthousiasmer les gens et qui vont permettre de rebâtir nos sociétés. Aujourd'hui, on est exactement, me semble-t-il, dans la même situation, c'est-à-dire nous sommes face à un changement, à une menace majeure, nous devons tous ensemble rebâtir nos économies. Et moi, c'est ce que j'appelle la reconversion écologique. On doit faire un changement radical de nos mentalités, de nos structures économiques. Ça, c'est enthousiasmant. Ça peut entraîner tout le monde.
C'est ce que vous avez écrit avec Éric Heyer et Pascal Lopiec, Dominique Méda, dans un livre qui s'appelle « Une autre voie est possible ». Donc cette voie qui consisterait, si on vous suit, à créer des emplois à plein temps, payés décemment grâce à une relance de l'activité qui serait ciblée sur la transition écologique. Exactement. Aujourd'hui, on parle d'un « Green New Deal ».
Oui.
Vous avez d'ailleurs, avec quelques-uns de vos confrères comme Daniel Cohen, l'économiste, ou Laurence Toubiana, signé, et Yannick Jadot également, signé aussi une tribune dans Libération qui disait il faut investir dans cette transition écologique. C'est ça l'idée du Green New Deal, il faut défendre cette idée-là, mais comment fait-on?
Alors il y a plein d'idées, il y a plein de choses différentes hein, derrière le Green New Deal. Sur votre antenne, j'ai fait un débat avec Jérémy Rifkin et j'avais l'impression de pas être du tout sur la même longueur d'onde que lui. Pourquoi? Parce que lui, il est extrêmement, d'ailleurs, il n'était pas content quand je lui ai dit ça, il est extrêmement technophile et donc lui pense que les choses vont se faire automatiquement.
D'elle-même.
Hein, c'est-à-dire que les actifs financiers placés dans le pétrole et tout ça vont d'eux-mêmes baisser. Les fonds d'investissement vont aller se mettre tout doucement et tout naturellement sur les énergies renouvelables et tout va se passer naturellement. Non, moi je pense qu'il faut...
Vous êtes plutôt sur la position d'Ursula von der Leyen qui mercredi, la nouvelle présidente de la Commission européenne, qui mercredi a fait de la transition énergétique l'une de ses priorités, mais là, investissement étatique.
Tout à fait. Et moi je vais beaucoup plus loin, me semble-t-il, hein, que parler simplement de transition énergétique. Je pense qu'on a, quand je parle de reconversion écologique, c'est aussi qu'il me semble que, si vous voulez, on doit faire une sorte de retour critique sur la sur notre héritage culturel, la modernité par exemple. Hein. La modernité, Francis Bacon, Descartes, qui nous disent il faut se rendre comme maître et possesseur de la nature. Donc cette idée que la nature, c'est un vaste champ offert à la manipulation humaine. Vous allez avoir des écologistes plus tard, Aldo Leopold par exemple, qui vont nous dire non, si nous voulons éviter la catastrophe, il faut qu'on ait un nouveau rapport avec la nature et il faut l'aimer, il faut la respecter et il faut avoir une nouvelle représentation en quelque sorte du rapport entre humain et nature. Par exemple, ce que Descola nous raconte. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il faut une reconversion des mentalité, quelque chose de très fort, et il faut aussi, ça me paraît évident, une planification de l'État, ou du moins de la puissance publique, y compris européenne, pour organiser ce chemin, hein, parce que ça va être hyper compliqué, on va avoir à faire des restructurations massives, donc il faudra accompagner les gens dans ces restructurations.
Donc d'une certaine façon, Dominique Méda, si on vous suit bien, la réponse que vous pourriez donner, sociologue que vous êtes, à ce qui se passe aujourd'hui, c'est une articulation entre un État social et un État écologique sur la base d'une reconversion
mentale. Il faut que nous repensions un État, j'ai d'autres collègues qui soutiennent tout à fait cette thèse, un État social écologique, et il faut qu'on arrête de penser en silo. Et là, si vous voulez, sur l'affaire des retraites, on nous dit, ah ben voilà, c'est en déficit, on peut plus bouger, c'est terminé, etc. Mais comment pourrait-on bouger? Mais on peut bouger en relançant l'emploi. Hein. D'abord, par exemple, en relançant l'emploi des femmes. Ça peut paraître tout petit, mais c'est énorme. Dans les hypothèses sur lesquelles...
Mais le gouvernement vous répondrait, et c'est ce qu'il fait en permanence, on relance l'emploi, on ne cesse de relancer l'emploi. Progressivement, le chômage diminue,
etc. En aucune manière. D'abord, le chômage diminue Non, mais le chômage diminue très doucement.
Mais diminue quand même.
Diminue quand même, oui, mais je ne pense pas que c'est l'action qui est adéquate. L'action adéquate, me semble-t-il, c'est un énorme investissement supplémentaire de plus de 20 milliards par an, à la fois sur la transition écologique, bon, rénovation thermique des bâtiments, c'est très créateur d'emplois, mais aussi, je parlais de l'emploi des femmes, dans toutes les hypothèses sur lesquelles repose le travail du corps, le Conseil d'orientation des retraites, on considère que, de toute éternité, le taux d'emploi féminin sera inférieur de 8 à 10 points à celui des hommes. Mais non, si vous mettez en place, si vous créez des crèches et des modes de garde de qualité d'enfants, vous allez avoir des femmes qui travailleront autant que les hommes. Donc, relançons l'emploi grâce à la transition sociale et écologique.
Et nous aurons des meilleures retraites.
Et nous n'aurons plus à bricoler.
Dominique Méda est notre invitée ce matin. Elle est sociologue, professeure à l'Université Paris-Dauphine. On vous retrouve d'ici 3-4 minutes, Dominique Méda. Il est 8h30 sur France Culture.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
Alors Dominique Méda, sur l'écologie, changer de paradigme, est-ce que c'est justement cette révolution copernicienne à la néo-zélandaise, c'est donc l'exemple à suivre?
Oui, ça me paraît tout à fait intéressant. J'ai pas entendu, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme soubassement philosophique à tout ça? Je dirais ça m'intéresse. Et est-ce que par exemple il y a une remise en cause? Parce que moi, avec d'autres collègues, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est l'idée qu'il faudrait passer maintenant dans une société post-croissance, hein, c'est-à-dire pas seulement faire des arrangements zéro carbone et tout ça. Et il me semble que si on pousse à fond l'idée qu'on va vers le zéro carbone, on va être obligé, c'est ce que je disais tout à l'heure, de rebâtir entièrement nos économies. Et l'idée d'un paradigme post-croissance me semble s'imposer. C'est-à-dire, aujourd'hui, on vit sur une sorte de grammaire, sur des conventions qui nous disent que ce qui est bien, c'est la croissance du PIB. On se compare tous, c'est un système universel, hein, la comptabilité nationale. Donc on se compare tous en disant, ah bah regarde, mon PIB est plus gros que le tien. Et notamment, mon PIB par habitant est plus gros que le tien. Voilà. Moi, je pense que ces instruments de mesure-là, ce sont des instruments d'un autre siècle, comme d'ailleurs le 3% de déficit, hein, cette petite convention dont Emmanuel Macron lui-même a dit qu'elle était désormais désuète. Donc on doit maintenant jeter tous ces vieux outils à la poubelle pour en mettre en place de nouveaux.
Dominique Méda, vous êtes également l'autrice, avec un certain nombre de vos collègues, d'un livre qui s'intitule « Les nouveaux travailleurs des applis ». Dirigé par Sarah Abdelnour et vous-même, hein, qui vient de paraître aux éditions PUF, dans lequel vous reprenez cette question du travail comme enjeu politique ou comme affaire personnelle, puisque c'est la grande question aussi d'aujourd'hui. Comment nous travaillons aujourd'hui? Comment nous serons avec nos retraites faibles ou fortes demain? Et est-ce que tout ça, finalement, ce qui se passe aujourd'hui, n'est pas corrélé à la crainte de ne plus avoir de travail tel qu'on l'a connu? Vous parliez de salariat, la question de la mobilité, etc. Tout ça est dans les nouveaux travailleurs des applis.
Oui.
Mais d'abord, de qui s'agit-il précisément? Parce que c'est quand même assez précis, les travailleurs des applis. Qui sont les travailleurs des applis?
Alors, ils sont pour l'instant assez peu nombreux. Hein. Ce sont des personnes qui travaillent avec des applications et on pourrait dire pour des applications. Alors on pense à...
Ça va des chauffeurs VTC aux livreurs de repas à domicile.
Exactement,
par exemple.
Deliveroo, Uber, mais aussi des... Ah, on ne cite pas de marque, d'accord. Comment dirais-je? On regarde aussi d'autres plateformes, Full Factory, ce qu'on appelle les plateformes de crowdworking ou de crowdsourcing, c'est-à-dire ce sont des plateformes qui lancent vers la foule un certain nombre de petites tâches, de micro-tâches que les gens vont faire derrière leur ordinateur. Donc, vous me disiez, alors, pour l'instant, oui, c'est difficile de les comptabiliser.
Mais ils ne sont pas très nombreux.
Est-ce
que c'est le monde de demain? Est-ce que c'est l'avenir du travail de demain?
C'est pour ça qu'on a écrit ce livre. C'est parce que, pour l'instant, il y a peu de personnes. On dit 200 000, 300 000, 400 000 personnes. Mais les modes d'action mis en œuvre par les grandes plateformes, et notamment le régime d'emploi ou de travail qu'elles imposent, est tout à fait catastrophique. C'est ça notre thèse. Repose sur un mensonge et une illusion. Et donc,
c'est des faux indépendants.
Alors, la plupart des personnes qui travaillent avec les applis sont des auto-entrepreneurs, alors même, et donc, pensent qu'elles vont accéder à une forme de liberté. Souvent, elles disent, j'ai envie d'avoir de la liberté de mes horaires, liberté de me connecter ou de ne pas me connecter, etc. Donc, il y a une envie d'autonomie dans le travail, de liberté dans le travail. Ce que nous montrons, c'est qu'il n'en est rien. Et que, d'une part, ces grandes plateformes, elles font une concurrence déloyale à toutes les professions réglementées, taxis et autres sociétés de livraison. Pourquoi? Parce qu'elles utilisent des auto-entrepreneurs et pas des salariés. Hein. Et quand vous utilisez des salariés, eh ben, vous devez mobiliser le droit du travail, le droit de la protection sociale. Il y a plein d'obligations, en effet, lorsque vous salariez les gens. C'est-à-dire qu'il y a des devoirs des employeurs. Eh bien, ces grandes plateformes, elles s'assoient sur ces devoirs des employeurs.
Les choses bougent quand même. On a vu la grève des livreurs cet été à Paris, la grève des livreurs Deliveroo. Partout ailleurs, depuis à peu près un an, les auto-entrepreneurs se révoltent contre les conditions de travail.
Oui.
Et puis, le Sénat de Californie a réagi en adoptant un projet de loi qui devrait contraindre ces sociétés à accorder un statut d'employé à leurs chauffeurs. C'est-à-dire, en gros, ce que vous réclamez, Dominique Méda,
oui,
un salaire minimum, une protection sociale, des congés. En France aussi, via la loi mobilité, le gouvernement parle d'établir une charte.
Alors, c'est
qui garantira un minimum de services, des conditions de travail décentes, une couverture sociale, etc.
Mais c'est ce que
ça bouge.
C'est ce que j'allais vous dire. Oui, ça bouge en Californie. vous l'avez parfaitement dit, donc une loi qui va permettre maintenant de considérer la plupart de ces personnes comme des salariés, donc elles vont être réintégrées dans le salariat et on va pouvoir leur accorder une protection sociale, mais aussi du droit du travail. Je rappelle quand même que le droit du travail, c'est fait pour protéger les personnes, d'une certaine manière, contre elles-mêmes. Par exemple, des auto-entrepreneurs, ils peuvent travailler 80, 90 heures s'ils le veulent, et ils peuvent foutre leur santé en l'air sans que personne ne s'en occupe. Dans le salariat, vous devez prendre des congés, vous avez des limitations du temps de travail, et puis vous avez aussi accès à l'assurance chômage, etc. Bref, il y a toute une série de choses qui vous protègent, y compris contre vous-même. Donc, la Californie, super, mais en France, qu'est-ce qui s'est passé ? En France, dans la loi d'orientation des mobilités, on a dit, c'est très simple, on va faire une charte, les plateformes vont s'autoréguler. Vous en connaissez beaucoup, des autorégulations qui fonctionnent. Donc, en effet, une charte qui dit, des chartes facultatives, qui disent qu'il y aura un droit à la déconnexion et puis que quand même, les travailleurs des applis pourront connaître à l'avance le prix de leurs courses. Extraordinaire. Donc voilà, ça va pas du tout assez loin, et c'est pas ça qui va permettre de réintégrer dans des protections dignes toutes ces personnes.
On parlera des jeunes dans un instant, puisque vous les évoquiez tout à l'heure à propos justement des retraites et des problèmes de entrée sur le marché du travail des jeunes. Mais juste un mot par rapport à ce que vous dites sur le salariat. Est-ce que pour vous, il s'agit donc de réenchanter le salariat, dont on a dit beaucoup de mal ces dernières années, ou plutôt d'adapter le droit à ces nouvelles formes de discontinuité que sont les nouveaux travailleurs des applis, Dominique Méda ?
C'est une vaste et très belle question. Moi, je considère un peu comme le sociologue Robert Castel que le salariat, qui a longtemps été considéré comme une condition indigne, on le méprisait, le salariat, est devenu avec le temps un bien extrêmement précieux. Pourquoi ? Parce qu'en effet, le travail est enserré dans un certain nombre de règles qui le rendent supportable, voire agréable, épanouissant, utile. Donc, aujourd'hui, il me semble qu'on n'a rien de mieux que le salariat.
C'est pas non plus le salariat qui a empêché la dégradation des conditions de travail dont vous
parlez
tout à l'heure.
Merci de dire cela. C'est tout à fait, vous me l'enlevez de la bouche. Malheureusement, le salariat a été dégradé de l'intérieur, en quelque sorte. Et puis, on a eu un certain nombre de discours depuis une trentaine d'années qui l'ont vilipendé et qui nous ont dit le salariat, c'est très mal, c'est pas bien. D'une part, parce qu'il y a des vilaines règles qui entravent la liberté des entreprises dans la compétition internationale. Donc, il faut supprimer ces règles. Et puis, le salariat, c'est la hiérarchie pesante. Alors, vous disiez réenchanter le salariat, oui, ou transformer un peu le salariat, c'est-à-dire, d'une part, améliorer les conditions de travail. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire réintroduire encore plus de droits du travail et de règles, à mon avis. Et réfléchir, en effet, sur le lien hiérarchique, le petit chef, le harcèlement, donc mettre de nouvelles règles pour empêcher tout cela.
Au sein même, vous voulez dire, de ces boîtes ou de ces plateformes, qui connaissent effectivement des inégalités sociales très fortes entre les cadres et les travailleurs.
Partout. Et puis également, pour contrer ces problèmes de hiérarchie, on a dans le Code du travail quelque chose qui s'appelle le livre 7. Et dans le livre 7, vous avez des gens qui ne sont pas sous un lien de subordination, mais qui sont protégés par le Code du travail. Par exemple, les VRP, par exemple, les journalistes professionnels, par exemple, les mannequins, les travailleurs à domicile, etc. Donc nous, ce que nous aurions aimé, c'est que nos travailleurs des applis, ils soient rangés comme ça dans ce livre 7 du Code du Travail, bien, bien à l'abri du Code du Travail.
Mais vous dites qu'ils gagnent, enfin tous les cas qu'on prétend gagner en autonomie, en mobilité, ce qu'ils perdent en droit et en protection du travail, mais est-ce que vous faites fi, Dominique Méda, de ceux qui considèrent qu'il s'agit d'une activité complémentaire? On pourrait dire, bon, on a un travail, beaucoup, d'ailleurs c'est les jeunes, allons-y, puisque beaucoup de jeunes sont des travailleurs des applis à côté d'un travail qui ne rémunère pas assez. Vous pourriez dire, finalement, il faudrait peut-être augmenter le salaire de ceux qui travaillent plutôt qu'ils aient besoin d'un autre salaire. Mais il y en a certains qui ont juste envie d'avoir une activité complémentaire, qui n'en font pas un idéal de société ou un idéal de vie, mais qui ont envie de cette autonomie,
Même
sans protection réelle.
Mais vous avez parfaitement raison. Ce qu'on a bien vu dans notre bouquin, c'est qu'il y a deux types de travailleurs des applis. Il y a ceux qui font ça de façon ponctuelle, en effet, pour avoir un petit revenu supplémentaire, etc. Très bien. Et puis, il y a ceux qui en vivent. Et là, c'est très, très, très difficile d'en vivre. Je veux pas à tout prix, en effet, obliger les gens à rentrer dans le salariat.
Surtout
c'est pas
beaucoup
ça.
D'études montrent, en particulier sur les jeunes, qu'ils n'ont plus envie de salariat puisque le salariat était désenchanté, vous le dites.
On leur a bien rentré ça dans la tête aussi, hein, leur dire que attention, le salariat c'était pas bien. Ce qu'il fallait, c'est être libre dans une start-up et ou bien en effet en étant auto-entrepreneur ou travailleur indépendant et qu'on trouverait toute son autonomie. Attention, je suis pas en train de dire que auto-entrepreneur ou travailleur indépendant c'est mal, pas du tout, du tout. Je dis juste qu'il faut sans doute trier aujourd'hui dans ces travailleurs des applis ceux qui relèvent vraiment du travail indépendant. C'est quoi le travail indépendant ? C'est quand je peux me former ma propre clientèle et appliquer et choisir mes prix, choisir mes tarifs. Donc ça, mais très bien. Donc il faut trier parmi ces personnes, celles qui vont rejoindre, qui sont des vrais indépendants et qui ont tout à fait le droit de l'être, évidemment, de ceux qui sont manipulés par les grandes sociétés et qui, finalement, donnent à celles-ci un avantage compétitif qui est une position de concurrence déloyale parce que ces sociétés ne payent pas de cotisations sociales et donc, évidemment, elles peuvent casser les prix, quoi. Donc il y a quelque chose de tout à fait... De tout à fait. Et puis attendez, je veux aussi revenir.
Ah mais j'attends.
Non mais je veux aussi revenir sur les jeunes. Alors on nous dit les jeunes, ils adorent faire du vélo et tout ça. Très bien. Donc il y a à peu près 50% des étudiants qui travaillent à côté de leurs études. Alors on peut me dire que certains ont envie de travailler, qui trouvent ça très bien, etc. Parfait. Mais quand on est obligé pour se payer ses études de travailler au risque de ne plus parvenir à faire ses études et en étant obligé de faire des choses invraisemblables, d'aller courir derrière une toute petite rémunération en étant travailleur à vélo, et puis finir par prendre un scooter parce qu'à vélo c'est trop long, avoir des accidents, être mal couvert, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que je pense que, là encore, je parle d'affaires en silo, hein. Aujourd'hui, on discute du revenu universel d'activité. Il faut absolument rentrer les jeunes dans ce revenu universel d'activité pour leur permettre justement de ne pas être obligé d'être dans ces situations de nouveaux travailleurs des applis où ils sont complètement
démunis.
Oui.
Dominique Méda, dernière question pour boucler la boucle, puisqu'on est parti de cette réforme des retraites. Certains disent que ce serait bon de commencer les points, puisque c'est une réforme des retraites qui introduit les retraites à points, que les points commencent dès les années d'études, disons, dès le statut d'étudiant. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, il faudrait prendre en considération les études comme étant déjà un premier travail?
Mais ça pourrait être intéressant. Intéressant, j'en discutais hier justement avec mes étudiants qui eux revendiquaient un statut étudiant et donc alors ne pas considérer ça comme un travail, mais oui, je trouve que c'est à y réfléchir absolument.
Allez, peut-être pas pour le dernier quart d'heure de ces matins du samedi, mais pour les jours et les semaines à venir.